Zoom sur le handicap. Une émission pour et par les personnes en situation de handicap. En partenariat avec Le Handidon. Présenté par Pascal Cambon.
Bonjour et bienvenue à chacun dans Zoom sur le handicap. Aujourd'hui, je vous propose un reportage. Lors de la rencontre avec l'association Chiens Guides des Aveugles du Grand Sud, j'ai pu interviewer quelques intervenants qui participaient à la manifestation qui a eu lieu fin septembre à Toulouse. Le Lions Club est à l'initiative de la bibliothèque sonore. En France, il existe 120 bibliothèques sonores qui offrent plus de 300 000 livres enregistrés. Vous vous rendez compte? J'ai un peu trop parlé, j'ai un peu soif, je vais aller boire de l'eau. Je vais laisser la parole à Madame Thomas.
Je m'appelle Madame Thomas et je suis présidente de la bibliothèque sonore de Toulouse.
Pourquoi vous êtes là à cette manifestation pour le chien pour aveugle?
Alors, je suis ici, monsieur, dans le cadre de la bibliothèque sonore, mais surtout pour le Lions Club. Il faut que vous sachiez que le Lions Club international a comme fil rouge la vue. Donc, le Lions Club international est donc une association qui a créé les chiens guides d'aveugles. La canne électronique plus la canne d'aveugle, hein, nous en sommes à l'origine, et les bibliothèques sonores. Une bibliothèque sonore, c'est un livre qui est enregistré sur CD MP3 et ce CD permet aux gens malvoyants, aveugles, personnes âgées qui ont une déficience visuelle, ça leur permet de ne pas être dans l'isolement de la culture. Un livre sonore, c'est le livre qu'on écoute. Voilà. Il faut que vous sachiez que nos services de la Bibliothèque sonore de Toulouse, tous nos services sont gratuits. Voilà. Et si vous faites un reportage, monsieur, sur la journée d'aujourd'hui, merci de parler de cette bibliothèque sonore et de mentionner que les gens peuvent venir vers nous et je vous assure que ça les coupe de l'isolement.
Alors, parlez-nous un peu plus de cette bibliothèque sonore et qui peut en faire des enregistrements?
Alors, cette bibliothèque sonore, votre question est pertinente, monsieur, parce que les enregistrements, ce ne sont pas des voix synthétiques, ce sont des voix humaines. Nous avons une association de donneurs de voix qui viennent bénévolement enregistrer les livres que l'on nous demande. La bibliothèque de sonore de Toulouse a 4500 livres et nous avons en plus un serveur national auquel nous pouvons avoir accès et faire descendre immédiatement les livres qui nous sont demandés. Mais la spécificité de la bibliothèque sonore, c'est surtout que la personne qui n'y voit pas et qui a envie de lire un livre que nous n'avons pas, ni au serveur national, ni à la bibliothèque sonore, nous pouvons gratuitement appeler un donneur de voix et faire enregistrer ce livre et en faire bénéficier le malvoyant. La bibliothèque sonore de Toulouse se trouve en centre-ville, près des Minimes, 5 rue Marc Arcis. En plus, nous avons un point d'accueil où les gens peuvent venir vers nous.
Vous connaissez sûrement la canne blanche qu'utilisent les personnes malvoyantes. Monsieur Pierre Gachet, président de la CBE, l'association de la canne blanche électronique, nous explique le fonctionnement de ce modèle de canne blanche.
Oui, bonjour, je suis Pierre-Michel Gachet, le président de la canne blanche électronique Grand Sud, dont le siège est ici à Toulouse, 12 rue de l'Étoile, à la Maison des Lions. Voilà.
Alors, présentez-nous votre association.
Alors, l'association, ben, pour tout vous dire, elle a été créée en 2005 et nous venons de fêter, pas plus tard que vendredi dernier, le 10e anniversaire de cette association qui a fait depuis ces 10 années, a formé et équipé 115 déficients visuels de la région Midi-Pyrénées, Languedoc Et à présent, nous avons une région un peu plus grande qui est aussi l'Aquitaine et le Limousin.
Pouvez-vous nous parler de la canne électronique, comment elle fonctionne ?
Alors, c'est une magnifique recherche française. C'est une innovation du CNRS d'Orsay où le chercheur qui est le professeur René Farcy, qui aura travaillé 25 ans de sa vie, qui continue dans son laboratoire à avoir trouvé un système de détecteur d'obstacles pas très encombrant qui puisse s'adapter sur une canne blanche d'un non-voyant. Donc, ce détecteur permet de voir les obstacles au sol et en hauteur, et tout obstacle lui est signalé par une vibration à sa main.
Y a-t-il une formation ?
Absolument. Alors, en fait, il faut commencer par le départ. Un déficient visuel, qu'il soit non-voyant ou malvoyant, nous le rencontrons. On voit un petit peu avec lui quel est son niveau de locomotion à la canne blanche. On lui fait passer un bilan avec un instructeur en locomotion spécialisé, un bilan qui dure 2 heures environ. Et si le bilan est positif, nous fixons avec lui, nous convenons une formation, parce qu'il y a 4 stages par an de formation. Et voilà, la formation dure une semaine, du lundi au vendredi, ici à Toulouse.
C'est pris en charge ?
Alors totalement, oui, pour le déficient visuel, il n'a rien à payer, si ce n'est que son déplacement, s'il vient de loin. Mais il est pris en charge ici à Toulouse. En ce qui concerne la formation, il est même, s'il est de loin, on peut l'héberger. On a une convention avec une structure hôtelière du centre-ville, ici. Donc tout est pris en charge, le repas de midi. Voilà, il n'y a que le déplacement et éventuellement le repas du soir pour lui. Mais l'hébergement, la nuitée, l'hôtel, tout ça, c'est pris en charge.
Avez-vous des contacts ?
Oui, alors des contacts, c'est effectivement notre préoccupation, c'est de faire savoir sur ces 4 grandes régions, un peu partout, de faire savoir que il y a ce nouveau concept français qui est à la disposition des non-voyants. Donc il faut trouver les déficients visuels, il faut les connaître, il faut que le message, la communication se fasse sur le terrain et à partir de là, on peut arriver à les équiper. Pour préciser, pour toute personne intéressée, voici les coordonnées de l'association, le secrétariat qui est au 05 61 20 37 19
ou 06 28 20 25 95. Un site internet www.acbe-grandsud.fr.
Voici le témoignage d'une famille d'accueil. Retrouvons Béatrice qui nous fait part de son expérience.
Bonjour, je suis Béatrice, famille d'accueil de Topaz, dont j'ai été l'éducatrice pendant 2 ans et qui est remise maintenant et bientôt à la retraite. Et là, j'anime en ce moment l'atelier du stand Braille où nous proposons des jeux pour adultes, enfants, enfin tout est mélangé, pour découvrir les activités dans les yeux bandés, dans le noir, découvrir aussi et apprendre certaines lettres de l'alphabet Braille. Nous pouvons aussi proposer, avec l'aide d'une machine, la machine de Perkins, d'écrire des mots, les prénoms des enfants ou des adultes qui eux-mêmes peuvent manipuler cette machine pour écrire leurs propres mots ou ce qu'ils veulent. Voilà.
Comment fonctionne la machine à écrire ? Là, on voit la machine à écrire. Pouvez-vous nous décrire comment...
Par contre, là, il va falloir demander à quelqu'un qui connaît un peu mieux parce que, oui. Comme je suis que famille d'accueil, je ne connais pas tous les savoirs de ces personnes. Et Dieu qu'il est grand.
Quel était votre rôle en tant que famille d'accueil ?
Eh bien, mon rôle était d'accompagner le chien dans son éducation pour pouvoir accompagner lui-même à son tour une personne malvoyante ou non-voyante. Donc, il s'agissait de s'occuper du chien aussi bien affectivement que de l'accompagner dans tous ses déplacements de la journée. Avant que ce soit nos déplacements à nous, donc on le promenait tous les jours, bien sûr. On lui apprenait à faire ses petits besoins dans le caniveau. ce qui n'est pas donné à tout le monde, malheureusement. On leur apprenait à ne pas sauter sur les gens, parce qu'un chien, ça a pour jeu favori de sauter sur les gens pour leur dire bonjour et leur faire une échouille. Donc, ne pas sauter et se tenir souvent sur la droite pour la démarche ensuite du malvoyant qui peut avoir les mains libres pour faire autre chose ensuite. On leur apprend à ne pas voler aussi. On essaie de les prendre sur le vif pour intercepter leurs petites bêtises entre guillemets. Voilà, par exemple, s'il y a un petit gâteau sur une table, on peut le guetter pour voir qu'il ne le prend pas, et là c'est au moment où il va prendre le gâteau sur la table qu'on lui dit non, pas touché. Donc là il sait que peut-être que s'il y touche il sera pas récompensé, quoi. Et c'est vrai que le travail que nous avons à faire aussi, c'est de récompenser l'animal, voilà, surtout le récompenser et pas trop le réprimander, à part avec le mot non, pas touché, voilà. On travaille beaucoup à la récompense.
Voilà. Pourriez-vous nous dire comment on devient famille d'accueil ?
Alors, moi, c'est tout simplement l'envie d'avoir un chien à la maison. Mais sachant que j'étais un peu allergique au poids de chien, donc j'ai retardé un petit peu l'échéance. Et puis, j'ai vraiment voulu en avoir, et on m'a dit que les labradors étaient moins porteurs de ce genre de problème. Donc je me suis renseignée auprès de l'école qui m'a indiqué toutes les démarches à faire. Il n'y en a pas beaucoup non plus, hein. Il faut être quand même assez disponible. Je voulais avoir un chien aussi pendant pas trop longtemps, voilà, pour des raisons personnelles. Et donc j'ai trouvé cette solution, quoi. Voilà.
Et est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs cette expérience, cette expérience pour vous d'être famille d'accueil?
Ah, c'est sûr que c'est une expérience formidable, inoubliable, qui nous apporte des joies, beaucoup de joie, il n'y a rien que ça finalement. C'est une découverte aussi d'un monde et d'un handicap qu'on ne connaît pas forcément. Et voilà, qui m'intéresse, et parce qu'on a des échanges formidables avec toutes ces personnes qui sont malvoyantes ou non-voyantes, et ainsi que toutes les équipes qui les entourent pour pouvoir arriver à travail et arriver à ce que tout le monde soit égaux malgré toutes ces différences.
Un pari fou, mais généreux, que la famille Vergne a réalisé. Ils sont partis de Toulouse pour rejoindre la capitale de Suède, Stockholm. Ils sont 5, les parents et 3 enfants. C'est en vélo qu'ils sont arrivés à Stockholm, après avoir parcouru 4000 km. Un défi courageux pour l'association Chien Guide des Aveugles du Grand Sud. Écoutons Madame Marion Vergne.
Bonjour, moi c'est Marion Vergne. Et donc on est parti en vélo en voyage en famille avec Stéphane, mon mari, mes 4 enfants, Noëlla, Timothée, Fleur et Justine.
Vous êtes parti d'où et...
On est parti de Tournefeuille pour aller jusqu'à Stockholm en vélo. Et on est parti mi-mai de cette année. On est allé jusqu'à Stockholm en 3 mois et demi.
Comment s'est passé votre voyage ?
Il s'est bien passé. On a fait 4000 km avec pas mal de rencontres sympas, beaucoup d'aventures. On logeait sous tente, donc en camping, un camping sauvage. Et donc le vélo aussi est propice aux rencontres.
Et comment vous avez su expliquer votre projet aux gens ?
Disons que dans nos rencontres, on leur disait assez simplement qu'on avait envie de faire un voyage, enfin on aimait bien le voyage itinérant en vélo, et que là on avait envie d'en faire un peu plus long. Et donc voilà, et puis souvent on est amené aussi à leur parler du parrainage avec pour les kilomètres au profit de l'association des chiens guides.
Quelle a été votre motivation pour faire suivre les enfants ?
Alors, nous, notre motivation en tant que parents, c'était vraiment le voyage, la rencontre, partir, faire un break. Et pour les enfants, pour les motiver un peu, bon, c'était pas complet, c'était vraiment le parrainage avec pour les chiens guides.
Ce sont vos enfants ?
Oui.
Est-ce qu'ils peuvent répondre à des questions ? Comment eux, ils ont vécu ? Pouvez-vous nous dire ça ?
Au quotidien, ça se passait bien. Après, de temps en temps, par rapport au vélo, c'était un peu dur pour les grands. Il y a eu des moments où, surtout en Suède, où ça monte beaucoup, en fait. Ça monte et ça descend, mais ça monte beaucoup. Ça a pu être un peu dur des fois. Mais après, tout ce qu'on a pu vivre en famille, les campements et tout ça, c'était chouette. Ouais.
Vous avez fait une récolte de combien ?
Alors, 3200... combien, Timothée, exactement ? 3225.
J'ai vécu une expérience que je ne suis pas prêt d'oublier. Je me suis joint à un groupe de personnes voyantes. Nous étions accompagnés par une personne malvoyante. Plongés dans le noir absolu, nous entrons dans une pièce. La personne malvoyante s'arrête et me prend la main pour m'accompagner à une chaise. Enfin, nous sommes tous installés autour d'une table. Des questions m'obsèdent. Où je suis ? Quelle est la superficie et comment est cette pièce ? On nous fait passer différentes pièces de monnaie, des centimes d'euros et de 1 euro. On apprend à reconnaître la différence entre un euro et des centimes d'euros, grâce à l'épaisseur des pièces. Mais il est difficile de savoir de quelle pièce précisément il s'agit. Le plus marrant dans l'expérience a été de reconnaître la différence entre un concombre et une courgette. Quand la lumière s'est rallumée, ça a été la grosse surprise. J'ai découvert que la salle était grande, alors que je l'imaginais plus petite. Je pensais que nous étions le seul groupe, alors qu'ils en avaient plusieurs. Cette expérience m'a permis de me rendre compte de l'importance des sens, comme le toucher et l'odorat, par exemple. Merci à l'association Chien Guide d'Aveugles du Grand Sud d'avoir accueilli Radio Présence et la production Zoom sur le handicap. Merci à tous les intervenants d'avoir répondu à mes questions. Retrouvez l'association sur leur site www.toulouse.chienguide.fr. À Tournefeuille, vous écoutez Radio Présence sur 97.9. Pas la semaine prochaine pour une nouvelle émission Zoom sur le handicap.
Zoom sur le handicap. Une émission pour et par les personnes en situation de handicap. En partenariat avec Le Handidon. Présenté par Pascal Cambon.